fait donc quelques respirations à pleine conscience. Avec la gratitude. Qu'est-ce qui a poussé le Bouddha à quitter son palais, à quitter sa vie de plaisir, qu'est-ce qui a poussé le Bouddha à partir seul? On fait donc quelques respirations en pleine conscience. Avec la gratitude. qu'est-ce qui a poussé le Bouddha à quitter son palais, à quitter sa vie de plaisir. Qu'est-ce qui a poussé le Bouddha à partir seul? Il avait des centaines de femmes. Plusieurs palais, des centaines de serviteurs, à disposition des milliers de plaisirs, tout aussi tous délicieux, plus délicieux les uns que les autres. Est-ce que c'était un fou? Est-ce qu'il n'a rien compris à la vie? Non seulement donc il avait les plaisirs sensuels, physiques, mais aussi il n'avait que affectivement, il était rempli de... on peut dire qu'il était totalement reconnu, aimé, vénéré par des milliers de personnes, toutes les personnes, sûrement des centaines de milliers de personnes de son royaume. Est-ce que donc vous pensez qu'il était fou de partir? Pour nous, quitter tout ce monde, quitter ces choses, ces personnes, pour nous, c'est quitter la source de bonheur que nous recherchons continuellement. Dans notre attitude naturelle. Ce que nous considérons dans le monde comme une sorte de sagesse, d'avoir la meilleure réputation, le meilleur plaisir, on peut dire que à ce niveau-là, le Bouddha était au sommet. Un jour qu'il sortait, donc il a rencontré un homme malade. C'est-à-dire un être sensible qui souffrait physiquement et moralement, rempli de souffrance, submergé par la souffrance, son corps contrôlé sous le pouvoir de la souffrance, contrôlé par le pouvoir de la souffrance. Par le pouvoir de la maladie. Donc, avec notre compréhension, par le pouvoir des actions négatives passées. Il était avec son serviteur, et son serviteur lui dit « Mais tous les êtres sensibles sont sujets à la maladie. » le corps qui maigrit, qui est sans force. On doit s'en remettre aux mains des autres. Les choses que l'on désire nous sont interdites. Les choses que l'on souhaite nous sont interdites pour notre bonne santé. Les choses que nous n'aimons pas nous sont imposées comme des régimes durs. Jour et nuit se passe souvent dans la détresse. Une partie de nous se révolte. Souvent, les gens qui souffrent énormément physiquement dans les maladies, ce qui s'élève, c'est pourquoi moi. Pourquoi je dois souffrir comme ça? C'est une sorte, en nous, on trouve ça injuste. Dans certains traitements ressemblent même parfois presque à des séances de torture. Ce corps est tellement sensible partout. Dans la maladie, parfois, il n'y a pas de répit dans la souffrance. C'est la nature de ce corps contaminé par le karma et les perturbations. Et donc, le serviteur du Bouddha lui dit, « Vous aussi, Seigneur, vous ne pourrez pas échapper à la maladie. Malgré tout son pouvoir, malgré toute sa richesse, malgré toute sa force, sa beauté, le prince Siddhartha ne pouvait pas échapper à la maladie. Un peu plus loin, un peu plus tard, il vit des personnes âgées. Comme un jour peut-être nous serons. Le corps se flétrit comme un fruit ridé de partout. Les chairs pendent, les dents ont disparu, les cheveux deviennent rares, presque inexistants. On ne voit plus très bien. On n'entend plus très bien. La mémoire s'effiloche. On ne se rappelle plus du nom des gens. On perd même notre chemin. Le dos se courbe. Ce corps qui est à la fois aussi fragile qu'une porcelaine est aussi lourd et encombrant qu'un fardeau. On ne va plus s'asseoir, mais on s'affole. Et quand on se relève, il faut s'y prendre avec nos quatre membres, s'appuyer sur quelque chose, se tirer à quelque chose. La voix est chevrotante, cette voix que plus personne n'écoute. Les mains tremblent, tout le corps est le signe de la décrépitude. Souvent abandonné, rejeté par la famille, comme dit Brel dans sa chanson. Alors, on attend, on regarde le temps qui passe, et la vie se passe du lit au fauteuil, et du fauteuil au lit, et puis du lit au lit, entre deux tisanes et un médicament. On attend la mort. La mort qui, dans un sens, nous submerge notre esprit et notre cœur de peur, d'angoisse. Il n'y a plus personne à qui on peut se raconter. Notre corps est usé et ne peut plus jouir des plaisirs du passé. Et parfois, quelle honte quand, sans contrôle, le pipi, le caca coule involontairement sur notre corps. Il y a une telle misère dans la vieillesse. Une telle souffrance que nous devons expérimenter totalement seuls. Et cela aussi, donc nous ne pourrons pas y échapper. C'est également la nature de l'existence cyclique, la nature de ce corps, de ce corps contaminé. L'autre rencontre du Bouddha était un mort. Nous voilà maintenant sur ce quai de gare où il n'y a personne, un vrai désert. On doit prendre ce train, un aller simple. Il n'y a pas de retour. On doit tout laisser, tout abandonner. Toutes les possessions, toutes les richesses, tout ce à quoi nous avons cru, tout ce à quoi nous avons dédié 100% de notre énergie. Et de tout cela, il ne restera rien. Tous ces amis qui nous entouraient, maintenant que nous aurions tellement besoin d'eux, tous ces êtres au nom duquel nous avons créé tellement d'actions négatives, tellement de maladresses, tellement d'actes motivés par la partialité, la préférence. Protéger mon ami aux dépens des autres, jusqu'à blesser certains êtres. Jusqu'à faire mal aux amis, aux ennemis de mes amis. Toute cette énergie pour, comme dit Shantideva, c'est pour trouver l'agréable et pour éviter le pénible que j'ai si souvent fait le mal. N'avais-je pas compris qu'il me faudrait un jour tout abandonner et partir? Mes amis, mes ennemis, mon propre corps, de tout ce que je sens et connais, il ne restera plus rien. Rien de rien. Même dans cette courte vie, nombreux sont les amis et les adversaires qui ont défilé devant moi. Seule demeure et ma compagne, terrible le mal dont ils furent l'occasion. Et pour conclure, je vais quitter ce monde des vivants, mes parents, mes amis, je m'en irai tout seul, je ne sais où, je ne sais quand. À quoi m'ont servi mes attachements et mes haines? Donc, tôt ou tard, nous serons sur ce quai, seuls, totalement seuls, à porter cet immense fardeau de nos actes. Des actes dont la saveur est souvent celle du regret, de la culpabilité, du remords qui nous submerge. Vivre sans avoir donné de sens à notre vie. Et maintenant, sur ce quai, il est trop tard. Il est trop tard pour revenir en arrière. Il est trop tard pour effacer les choses. Alors quelle inconcevable misère va étreindre notre cœur quand on devra monter dans ce foutu train. Maintenant, peut-être on peut mieux comprendre pourquoi le Bouddha a choisi de partir. De toutes ces splendeurs qui lui étaient proposées, il ne pouvait pas détourner son esprit de la véritable nature de l'existence cyclique. En plus, il y a une multitude d'autres souffrances, juste en tant qu'être humain, celle de d'être séparé de ceux que nous aimons, parents, amis, compagnons, enfants, même d'être séparé du maître. Quand il quitte son corps, d'être unis aux choses douloureuses, déplaisantes. Les ennemis, ceux qui nous blessent, qui nous critiquent, qui rendent notre vie difficile. Les guerres, les famines, la violence verbale, physique. Les tortures, les viols, le désespoir, le chagrin, la solitude, l'abandon, le rejet, catastrophes naturelles, les accidents, les injustices. Cette avalanche de misère et de souffrance qui règne juste seulement dans ce royaume humain qui est considéré comme une renaissance fortunée. En plus vient à se greffer, malgré tous nos efforts, de ne jamais pouvoir réellement obtenir ce que l'on désire. Et même si l'on obtient cette chose, il y a en nous l'insatisfaction. La Matsonkapa en parle dans un de ses enseignements. Et il nous dit, toute cette masse, cette incroyable masse d'énergie que l'on met pour obtenir un plaisir, juste un plaisir, le résultat, donc cette expérience de plaisir qui va durer quelques instants, quelques secondes, quelques minutes au mieux, l'expérience de plaisir qui découle de tant d'efforts, de tant de combats, de frustrations, de sacrifices, d'action négative, le temps d'effort, le résultat, ce moment de plaisir éphémère, ne peut pas être comparé à la masse des souffrances que l'on va devoir endurer comme résultat des actions négatives que l'on a accumulées. On ne peut pas comparer les deux, comme on ne peut pas comparer une goutte d'eau avec le nombre de gouttes d'eau qu'il y a dans l'océan. Comme dit la Matsonkapa dans son enseignement, c'est non seulement on ne peut pas comparer le petit plaisir qui va venir d'une telle masse d'efforts, d'énergie, à la masse de la souffrance qui va découler de toute cette maladresse, de tous ces actes motivés par l'ignorance, le désir, l'attachement, etc. Non seulement on ne peut pas comparer les deux, mais qu'en fait, parce qu'il n'y a aucune satisfaction. Il n'y a aucune dans ce plaisir, dans cette expérience de plaisir, comme il n'y a aucune satisfaction, donc on va recommencer. On va recommencer encore et encore. Et toute cette précieuse renaissance humaine va être dédiée à recommencer les actes qui vont nous amener à seulement expérimenter les royaumes inférieurs comme résultat de nos actes négatifs. Réellement, ça n'a pas de sens. Réellement, quand Lama parle de ça, il dit si réellement on prend conscience de ça, du fond du cœur, elle m'a dit, alors, ça m'a fait pleurer continuellement et ça m'a fait vomir. C'est la souffrance, cette immense tristesse qui vient de ce constat est démesurée. Mais nous sommes jamais réellement conscients de la souffrance que nous expérimentons, pas seulement dans cette vie, pas seulement depuis quelques vies, quelques dizaines, quelques centaines de vies, mais même le Bouddha, l'esprit omniscient, ne peut pas voir de commencement à cette souffrance. Est-ce que maintenant, nous pouvons voir clairement pourquoi le Bouddha est parti? Quand nous pourrons le voir à 100% clairement, du fond du cœur, pas seulement intellectuellement, comme le dit Lama Tsongkhapa, quand jour et nuit, sans une seconde de répit, nous aspirerons à nous libérer d'une telle situation, à ce moment-là, nous aurons réalisé le renoncement. Pour finir, ce que Lama Tsongkhapa disait par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, cette expérience d'un tout petit plaisir totalement éphémère, qui n'a pas d'essence et donc qui ne peut pas nous amener de satisfaction. Et que pour obtenir ce tout petit plaisir, nous amassons un océan d'actions négatives. Négatives dans le sens que toutes ces actions sont propulsées par l'ignorance qui est basée sur la croyance à l'existence réelle de ce plaisir, à l'existence réelle de cet objet désirable. Donc c'est pas seulement de la souffrance dans la frustration, dans l'insatisfaction, dans dans tous les efforts, la fatigue que l'on met pour obtenir ce petit plaisir qui de toute manière non seulement ne va pas durer, mais ne pourra jamais nous amener le bonheur véritable. Et donc, pour conclure, Lama Tsongkhapa disait, en fait, en tant qu'être humain, c'est la plus grande souffrance. Il n'y a pas de plus grande souffrance que d'utiliser son potentiel pour seulement créer les causes pour les royaumes inférieurs. Et aussi, donc, pour cette vie, ne rien obtenir, aucun, comme dit Shantideva dans son texte, c'est le même plaisir que les bêtes de somme obtiennent après un travail. Il y a peut-être juste une petite différence de qualité de plaisir. Mais dans l'essence, il n'y a pas plus d'essence entre la poignée d'herbe que mange un âne après avoir travaillé toute une journée qu'avec le plaisir temporaire que l'être humain peut avoir en ayant aussi dédié tout son temps et son énergie. Si on veut le comparer avec le bonheur de la libération, sans parler même de l'éveil. Comprendre le choix du Bouddha quand il est parti. On revient au choix. Il a fait ce choix. Il a fait le choix d'aller dans ce qui est essentiel. Il a fait le choix de renoncer à l'apparence illusoire et trompeuse des plaisirs samsariques. Il a fait le choix de trouver la véritable, d'aller sur le chemin de la liberté intérieure. Il a fait le choix de goûter au nectar de l'état sans ego. Dans la compréhension de toutes les souffrances qu'implique l'existence cyclique et dans dans la misère de ses plaisirs, dans la misère que, dans la misère de la nature des plaisirs que nous propose l'existence cyclique. Donc, si l'on voit d'un côté la masse inconcevable des souffrances qu'elle nous propose, et de l'autre côté cette misère de plaisir éphémère et sans essence qu'elle nous propose également. Ça, c'est le royaume de l'ego. C'est le royaume de la préservation du je, du moi, et donc des cinq poisons majeurs, de tous les autres poisons de l'esprit. Et si l'on compare à l'océan de béatitude, qui est le résultat de, du chemin du non-soi, qu'allons-nous choisir? Ou du moins, qu'allons-nous essayer? Qu'est-ce que nous allons essayer de choisir? On peut demander au maître de nous inspirer, d'être présent en notre cœur pour nous insuffler cette force intérieure et cette détermination de faire ce choix ici et maintenant de façon aussi authentique que possible, de façon aussi sincère. Sans attendre que la vie passe, qu'elle s'évanouisse. Tous ces actes que nous avons posés depuis notre naissance jusqu'à maintenant, qui ont eu pour but de nous amener un bonheur véritable, une satisfaction véritable, ont lamentablement échoué, car nous n'avons ni satisfaction ni bonheur véritable. Par contre, notre esprit est donc maintenant chargé du poids de ses actes. Est-ce que nous pouvons maintenant être libre de la loi de causalité? Est-ce que nous pouvons nous dire je suis au-delà de cette loi? Bien sûr que non. Donc si notre désir est de ne pas souffrir et d'avoir du bonheur, si notre désir est de, d'essayer d'être bénéfique aux autres. Donc, notre responsabilité, c'est de nous libérer des causes karmiques de ces souffrances, de ces obstacles à l'éveil, de ces obstacles qui nous empêchent d'obtenir les réalisations. Donc la partie qui accompagne la compréhension de la souffrance, la compréhension de la loi de causalité dans l'existence cyclique. Et définitivement, notre détermination à purifier nos actes négatifs. Non seulement nos actes, mais ces actes posent en nous des empreintes. Ces empreintes amènent une tendance à recommencer toujours et toujours les mêmes erreurs. Donc, sans attendre, nous devons nous entraîner dans la pratique de la purification. Pour cela, le Bouddha a transmis une méthode parfaite, la méthode de Vajrasattva. Donc, si vous voulez, donc, nous allons faire quelques prosternations. Allié à la pratique de Vajrasattva, donc à la récitation du mantra de Vajrasattva. Donc, je pense que vous connaissez la pratique. Donc vous visualisez Vajrasattva en face de vous. Vous générez donc spécialement le regret et la détermination de ne pas recommencer, vous rappelant toutes les actions négatives, maladroites, et les poisons de l'esprit qui suscitent ces actions, qui sont la cause de ces actions. Avec la détermination de ne pas recommencer. On accomplit les longues prosternations tout en récitant le mantra de Vajrasattva et donc en visualisant cette lumière qui pénètre par le sommet de la tête et qui nous purifie totalement donc, de ces actions négatives. Et afin d'avoir la certitude, cette force intérieure de vraiment ressentir maintenant je suis vraiment purifié. Et l'unique raison d'accomplir une telle pratique est seulement pour le bien des êtres. C'est seulement pour le bien des êtres. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre raison. Donc, vous connaissez tous le mantra, je pense. Donc, on va faire le court mantra. C'est bien mieux. C'est Om Vajra Sattva Om. Donc, il y a le long mantra qui fait 100 syllabes, mais celui-là, c'est un peu difficile à mémoriser comme ça. Donc, Om Vajra Sattva Om. Ça, c'est en sanskrit. En tibétain, c'est Om Benza Sato Om. C'est mieux, si on peut dire en sanskrit, c'est mieux, c'est plus puissant. Donc, Om Vajrasattva Om. Donc, on visualise, donc, Vajrasattva. Il n'y a pas de... Il n'est pas là? Enfin, s'il est là, mais on ne le voit pas. Pas encore. Après, peut-être, la série de présentation, on pourra le voir, mais pas pour l'instant. Donc, il est blanc. Donc, il a plusieurs formes. Mais donc, une des formes, c'est il a un vajra et la cloche qui est au niveau de son ombre. Donc, il tient la cloche comme ça. Et le vajra comme ça, je pense. Des fois, il est aussi comme ça. Et des fois, il est avec une consort. Donc, peu importe, je veux dire... La cloche et le Vajra symbolisent l'union de la sagesse et de la méthode. Son aspect blanc, parfaitement pur comme la neige, donc, symbolise qu'il représente la pureté primordiale de l'éveil. Et donc cette pureté primordiale qui n'est pas autre chose que la sagesse transcendantale de la vacuité, donc, qui comprend la nature des phénomènes et donc qui a par cela a le pouvoir donc de purifier l'esprit et le poids des actes qui est seulement motivé par les poisons de l'esprit, donc par la croyance à l'existence véritable des choses. Comme un peu on a fait ce matin avec les 35 Bouddhas, donc la prosternation purifie le corps, la parole en récitant le mantra donc purifie la parole, et la visualisation donc purifie l'esprit. Comme on a dit, pourquoi se priver d'un bénéfice en plus? Il suffit juste de penser, je le fais pour le bien des êtres, et la même action devient la cause de l'omniscience. La même action devient la... Parce que, même si c'est... ce que Geshe-la en parlait un peu ce matin, c'est... c'est ce qu'on appelle la bodhicitta artificielle, même si notre compassion est encore artificielle, le simple fait de dire pour être bénéfique aux êtres, pour aider les êtres, même si on n'est pas totalement vibrant profondément de compassion, même si on le pense seulement de façon artificielle, c'est suffisant pour créer les causes pour que notre action devienne la cause de l'éveil, la cause de l'omniscience. Donc, c'est bien de pouvoir profiter de cette méthode précieuse, de rajouter à notre acte pour le bien des êtres, pour les libérer de la souffrance. Donc, vous vous rappelez du mantra? C'est OK? Om Vajra Sattva. Donc, selon votre énergie, les petites ou les grandes prosternations. Et si vous ne sentez pas, vous pouvez rester assis et mettre les mains comme ça, et vous pouvez visualiser que vous le faites. C'est bien de réciter le mantra, donc surtout c'est bien donc de générer du regret et la détermination de ne pas recommencer.